Dernier sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Vaïté Ourari Pambrin.
Mais c'est pas encore week-end, le journal avec Vaïté, bonjour.
Il y aura Moreto, il y aura à tous au menu de notre édition de ce vendredi 1er juillet. La rédaction de Radio 1 vous propose un sujet société puisque le comité Miss Haïti a publié les notations des candidates. Nous aborderons aussi un sujet nucléaire avec le père Joël Ouméran qui dénonce une économie de comptoir lors de l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique au Fénois. Et enfin, la mise en place d'un crowdfunding pour la réalisation d'un documentaire pour le spectacle Andy Danse.
Et le comité Miss Tahiti donc joue la transparence.
Et c'est pour que cesse la polémique ayant trait au sacre de Vaïa Ferran au titre de Miss Tahiti 2016. Le comité a décidé de publier les notes officielles des candidates. Une première pour Layana Fogera, présidente de la société Miss Tahiti. Elle est interrogée par Cédric Valax.
Alors nous avons publié les notes d'abord parce qu'on a eu pas mal de demandes via notre page Facebook Miss Tahiti de personnes qui souhaitaient qu'on mette un peu les choses à plat. Et c'est vrai que habituellement, on ne le fait pas, parce que souvent, il y a de très gros écarts entre la Miss et ses dauphines ou d'autres candidates. Donc, pour mettre personne mal à l'aise et pour que les lauréates qu'il n'y ait pas de mésentente ou d'histoire de jalousie, de choses comme ça, on ne les publiait pas historiquement. Mais du coup, cette année, de par les demandes du public polynésien sur notre page Facebook, et deuxièmement, de par aussi la polémique qui continue encore un peu à agiter les réseaux sociaux, avec notre huissier, on a décidé de publier officiellement les résultats, et je pense qu'on le fera chaque année, du coup, si ça peut éviter que les gens disent tout et n'importe quoi concernant les résultats définitifs de la Miss, tant mieux.
Et vous verrez qu'au classement général du premier tour, Vaïa Ferran et Vaïa Tabuisson, sa première dauphine, terminent à égalité avec 95 points. Ensuite, au deuxième tour, après l'annonce des quatre finalistes, les compteurs ont été remis à zéro. Et Vaïa Ferran s'est démarquée de sa concurrente en empochant plus de points de la part du jury, mais surtout du public. Et si l'élection avait été organisée sous les mêmes règles qu'en métropole, où ce n'est que le public qui vote parmi les quatre finalistes, le classement final de l'élection aurait été différent. Vaïa Ferran serait restée Miss Haiti, tout comme Mehealani Tepo ou Miss Heiva, mais c'est Vanille qui aurait remporté l'écharpe de première dauphine.
Nucléaire à présent avec l'Église catholique qui accuse et affirme « on nous a bernés ».
L'Église catholique représentée par le père Joël Ouméran, vicaire général du diocèse de Papeete, fait partie du comité de pilotage mis en place à l'occasion de la commémoration des 50 ans du premier tir nucléaire au Fénois et qui en charge l'organisation de la journée du 2 juillet, mais également tous les événements y afférents. On pourrait s'étonner de voir l'Église catholique se lever aujourd'hui pour dénoncer les méfaits et les conséquences du nucléaire. Mais Père Joël affirme que cette levée de bouclier ne date pas d'aujourd'hui.
Nous allons donner des références qui disent que non, l'Église catholique a parlé, mais peut-être au niveau local pas assez, ou alors pas assez clair. Moi-même, mon expérience à Fidji, quand on m'a demandé en tant que citoyen français de dire que les essais français sont des essais propres, j'ai toujours refusé parce que mes convictions profondes m'interdisent de dire que ce sont des essais propres.
Est-ce que vous pensez que maintenant l'Église catholique travaille dans ce sens, ça va faire avancer ce dossier de nucléaire?
J'avoue que c'est mon espérance. En tant qu'enfant de ce pays, nous devons reconnaître ce fait nucléaire et donc travailler en ce sens, c'est-à-dire de mettre dans les livres d'histoire ce fait nucléaire fait maintenant partie, malgré nous, de notre histoire et de demander à la solidarité nationale de nous aider à un vrai développement. Pas au développement qu'on nous a dit, lorsque vous aurez le nucléaire, la Polynésie sera bien développée, alors ça n'a été que de l'économie superficielle. Ce n'est que du vernis. Maintenant, le vernis est parti, et bien on est un peu dans la buisse. On nous a bernés, pour le dire. On nous a bernés.
Un courrier commun de l'Église catholique et protestante devrait être envoyé aux autorités du pays. Et il sera fait état de la reconnaissance du fait nucléaire et de réparation.
Et l'historien Jean-Marc Regnault affirme que l'installation du CEP était préméditée.
Et il a tenu à le porter à la connaissance du public au travers de la réédition, avec les derniers documents auxquels il a eu accès, de son livre intitulé « La France à l'opposé d'elle-même ». Il s'agit notamment de l'installation du CEP, le centre d'expérimentation du Pacifique, scientifique au finnois. Ainsi, l'auteur confirme aussi aujourd'hui ce qu'il écrivait déjà en 2006 et je cite « Le Sahara était une solution provisoire. La France envisageait déjà en 1957 d'installer le CEPO Toamoutou. La crise de Suez a révélé que la France était devenue une puissance secondaire. Écoutez-le plus tôt. »
Le gouvernement français de l'époque a pris les dispositions pour se doter de l'arme nucléaire. C'est resté des décisions plus ou moins secrètes.
Vous disiez aussi qu'au Sahara, les essais de grande puissance étaient impossibles.
La réponse du directeur du commissariat à l'énergie atomique dit la configuration géologique du Sahara, sa position à proximité donc, d'autres pays, rend impossible les tirs de grande puissance. On les fera dans une île du Pacifique ou au Kerguelen. Il ajoute, on peut toujours faire des recherches en France, mais de toute façon, c'est pas sérieux, puisque en France, on ne pourra pas les faire pour des raisons politiques, mais il disait parce qu'on va mettre la pollution nucléaire dans tous les cours d'eau.
Et comme le hasard n'existe pas, affirme l'historien, la construction de l'aéroport de Titi Faa était donc devenue une nécessité.
Alors, c'est assez amusant parce que on voit un certain nombre de représentants des ministères, etc., etc., qui disent ça va développer l'économie. Et le directeur de l'aviation civile dit si on construit cet aéroport, c'est pour des raisons de haute politique. Donc, on peut dire que l'installation du centre d'essai en Polynésie a été quelque chose de prémédité.
Tout à l'heure, vous disiez que l'installation du CEP au finnois était prémédité.
La défense nucléaire, c'est une raison d'État. C'est terrible à dire, mais c'était le raisonnement de l'époque. Il faut que la France dispose d'une arme nucléaire par tous les moyens, et quelles qu'en soient les conséquences.
Et justice à présent, avec Gaston Flosse qui a de nouveau perdu contre le journal Le Monde.
Effectivement, en 2013, deux journalistes d'investigation, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, avaient révélé les dernières avancées de l'affaire de la disparition inexpliquée du journaliste JPK, Jean-Pascal Gourou, en 97. Et le leader du Tahouir A, Gaston Flosse, avait alors porté plainte pour diffamation à l'encontre du journal et réclamé 1 million de dommages et intérêts. 2 ans plus tard, le tribunal correctionnel l'avait débouté de ses demandes en estimant que l'article des deux journalistes n'avait aucun caractère diffamatoire. Gaston Flosse a fait appel et hier, la cour d'appel a une nouvelle fois débouté Gaston Flosse de ses demandes.
Justice toujours avec l'affaire des emplois fictifs qui a encore été renvoyée.
La cour d'appel de Papeete a examiné hier matin le dossier de remboursement de l'argent détourné au préjudice de la Polynésie dans l'affaire des emplois fictifs. Et en raison de l'absence des avocats de plusieurs prévenus, la cour a renvoyé l'étude de ce dossier au 17 novembre prochain, où une après-midi complète sera consacrée. Pour rappel, le volet pénal de cette affaire a été réglé en juillet 2014 avec les condamnations définitives de 18 personnalités politiques telles que Gaston Flosse, ancien président du pays, Justin Arapari, ancien président de l'Assemblée, Bruno Sandras, ancien député maire de Papara, les syndicalistes Cyril Le Gaïc et Jean-Marie Antou, ou encore l'actuel ministre du Tourisme, Jean-Christophe Buissou et l'actuel conseiller du président Fritsch, Jérôme Janot.
Et puis, des choses beaucoup plus sympathiques à entendre. Alors, Andy Danse cherche des fonds pour réaliser un documentaire.
Et le spectacle monté par l'Académie de danse d'Annie Fein mettant en scène des danseurs valides et handicapés devrait sortir sous forme de documentaire et devrait retracer toute l'aventure de ce spectacle, y compris en dehors du finnois. Ainsi, les porteurs du projet Alors Andy Danse ont choisi le système du crowdfunding pour financer la réalisation de ce documentaire. Et Emmanuel Schneider considère que cette campagne de financement est unique car elle est adaptée aux Fénois.
Normalement, le crowdfunding, ça se passe entièrement en ligne. Ce sont des plateformes sur lesquelles on dépose un projet et les gens qui ont envie peuvent donner. Donc ça marche très bien à l'étranger, mais sur le Fénois, pas encore beaucoup parce que les gens n'ont pas forcément cette habitude. Du coup, grâce au partenariat avec la Fraternité chrétienne des handicapés qui nous suit vraiment sur ce projet, on a pu transposer ça dans la réalité. C'est-à-dire que les gens peuvent aller faire un don à la Fraternité chrétienne et du coup, ils vont avoir les mêmes récompenses que ce qu'ils auraient s'ils avaient fait un don en ligne.
Aujourd'hui, le projet a déjà récupéré plus de 300 000 francs, soit 74% des fonds nécessaires à la réalisation du film, et ce grâce à la participation d'une trentaine de coproducteurs, et l'équipe ne compte pas s'arrêter là.
En fait, ça marche par seuil, donc on est très heureux, on a passé le premier seuil qui était 2 500 €, c'était vraiment le budget de base pour pouvoir rentrer dans les frais. Là, on s'achemine, on est à 70% à peu près du deuxième seuil qu'on souhaite atteindre à 5 000 €. Et ça, c'est quand même toujours pour financer le film documentaire. Mais en fait, on veut aller, on espère atteindre les 10 000 euros et peut-être plus. Donc on espère effectivement aller au-delà, et ce qui permettra à coup sûr à 100% de pérenniser l'action en Didan.
Les interviews ont été réalisées par Moana Charles.